L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi, mais non, c'est la fin de semaine, nous sommes vendredi, et oui, déjà vendredi 28 mai. Et oui, vous voyez, ça passait très très vite pour moi aussi. On n'a pas Claire qui nous fait son petit point météo, donc je vais essayer de la remplacer. Hein. Il fait beau et c'est sympa. On espère aussi ce week-end, mais justement ce week-end à Laval, et notamment ce dimanche, il y aura l'inauguration de tout un parcours artistique. Ça s'appelle l'Art sur le chemin. C'est tout près du Crous, sur le chemin de l'Aubépin, si vous connaissez. En tout cas, on va en parler. C'est une initiative de la Jeune Chambre économique de Laval. Et justement, on fait un zoom sur cette belle initiative. Lors de l'interview, on va aussi parler dans cette émission du joint français de l'entreprise à Château-Gontier qui s'étend, qui se développe, et donc la communauté de communes participe à la construction d'un nouveau bâtiment pour cette entreprise. On vous en dira un petit peu plus. Et puis en fin d'émission, ne manquez pas le dernier épisode de notre série autour du Festival des Trois Éléphants, sous une forme un peu inhabituelle cette année, novatrice, avec notamment tout de même, ça c'est sûr, c'est maintenu, tout un programme de spectacles d'art de rue ce week-end pour les chansons qui ont réussi à avoir leur ticket. Vous verrez, la programmation est malgré tout assez riche. Mais tout de suite, on fait d'abord un point sur l'actualité de ce vendredi. Appel aux bénévoles pour le centre d'appel de vaccination. Le conseil départemental de la Mayenne recherche des volontaires pour tenir la semaine prochaine des permanences au centre d'appel pour la prise de rendez-vous pour la vaccination. Si vous êtes intéressé, il suffit de vous inscrire sur lamayenne.fr. Et puis des élections auront lieu dès ce dimanche, dans 3 communes seulement pour les municipales partielles, à Val-du-Maine dans le sud Mayenne, à Saint-Aubin-Fos-Louvain et Rennes-en-Grenouille dans le nord du département. Toutes ont en effet perdu leur maire ces derniers mois, les électeurs sont donc invités à choisir leur successeur ce dimanche. Hier soir, un blessé dans un accident à Cossé-le-Vivien. Sur la route de Méral, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été victime d'un accident sur cette départementale 4. Il a été bloqué à bord de son véhicule et a été ensuite transporté en urgence au centre hospitalier de Laval. On ne connaît pas encore les circonstances de l'accident. A changé, rassemblement en hommage à Fatima. Il y a 3 ans, cette petite fille de 6 ans a perdu la vie au parc des Ondines, après qu'elle ait reçu sur la tête une branche d'un arbre du parc alors qu'il y avait de violents orages. Elle est ensuite décédée à l'hôpital à la suite de ses blessures. Les proches de la famille souhaitent aujourd'hui qu'une statue commémorative soit installée à l'endroit où a eu lieu cet accident. Les parents de Fatima avaient porté plainte contre la mairie de Changé, mais la justice vient de classer l'affaire sans suite. Une cagnotte en ligne pour soutenir le livreur Uber Eats victime de racisme. Elle a été lancée par le CLAP, le collectif des livreurs autonomes des plateformes, en soutien au Lavallois Yaya Guirassi. Le but, lui redonner un peu de valeur et l'aider à s'investir davantage pour la cause de ses collègues. La section Laval-Mayenne de la Ligue des droits de l'homme, elle lui assure de son ferme et amical soutien. Dernier jour pour participer à l'enquête vélo de Château-Gontier. Les habitants de la commune ont jusqu'à demain soir pour faire connaître leurs attentes et usages du vélo dans la ville. Leurs réponses permettront d'orienter les actions prévues dans le cadre du plan vélo. Les bulletins distribués dans les boîtes aux lettres peuvent être déposés en mairie et l'enquête est aussi disponible en ligne. On reste dans le cyclisme, mais là, pour le coup, professionnel, avec Philippe Valsleben qui a créé la surprise hier en remportant la première étape des boucles de la Mayenne. Le cycliste allemand a franchi la ligne d'arrivée à Ambrières-les-Vallées, alors que pourtant Arnaud Démare et Clément Davy ont fait la course en tête. Le maillot à poids, lui, a été attribué à Maxime Urruti de Xélis-Roubaix-Lille. Aujourd'hui, forcément, c'est la deuxième étape qui reliera Vège à Évron en 173 km. Départ prévu d'ici quelques minutes à 12h30. Un nouveau bâtiment pour le joint français à Château-Gontier. Installé dans la zone industrielle ouest de Bazouges, l'entreprise du groupe Hutchinson se développe avec l'aide de la communauté de communes du pays de Château-Gontier. La collectivité va construire un centre logistique de 4000 m² tout près des locaux actuels de l'entreprise qui emploie près de 530 salariés. Un investissement nécessaire mais pas nouveau selon le président du pays de Château-Gontier, Philippe Henry.
On avait, il y a maintenant quelques années, acheté un autre bâtiment donc, qui s'appelait l'imprimerie de l'indépendant, qu'on avait remis à disposition, moyennant donc, un loyer au groupe Le Joint Français, donc, où on a installé une unité de fabrication de moules, avec un certain nombre de fonctions aussi administratives, avec plusieurs directions, notamment du groupe Hutchinson. Ce bâtiment donc, a été racheté par la suite par le groupe Le Joint Français. Donc on est dans une deuxième opération parce que effectivement donc leur logistique aujourd'hui était soit installée dans le sous-sol du bâtiment, soit externalisée. Et donc la volonté a été pour le groupe de regrouper toutes les fonctions logistiques. Et donc pour nous, c'est une bonne nouvelle puisque ça vient conforter l'ancrage du Joint Français de cette belle entreprise dans le pays de Château-Gontier. Ce n'est pas le premier bâtiment logistique qu'on construit. On l'a fait pour Brégé, on l'a fait pour VNB. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on porte aujourd'hui la partie immobilière. Et donc on est parti sur un bail de 12 ans qui devrait normalement, certainement, bien avant les 12 ans, être pris en propriété par le groupe. Et ce bâtiment, effectivement, est situé sur une parcelle qui permettra à ce bâtiment-là d'être doublé et d'être triplé, puisqu'il y a un certain nombre de projets aussi en maturation chez Hutchinson qui nécessiteront à un moment donné aussi un peu de place. On voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin en quelque sorte de consolider les installations parce que plus une entreprise aujourd'hui, elle est entourée de toutes ses fonctions support, ça peut être la recherche et développement, ça peut être la logistique, ça peut être les directions administratives supérieures européennes, etc. Ça peut être effectivement des sous-traitants et notamment la fabrication des moules. Ça ne fait aujourd'hui que participer à l'ancrage de l'entreprise dans son territoire. Quand on n'est plus qu'une entreprise de production et qu'on n'a plus ses fonctions support, on l'a vu dans d'autres secteurs comme avec Molex ou avec Thermo, eh bien, c'est des entreprises qui, après, sont parties du territoire. Donc, notre enjeu, c'est aujourd'hui d'ancrer vraiment ces entreprises sur le territoire. Pour nous, l'enjeu, c'est de conserver effectivement ces entreprises-là. C'est conserver l'emploi. Et quand on dit conserver l'emploi sur un territoire, c'est aussi permettre aux familles d'y rester, permettre aux familles d'avoir une sorte de visibilité quant à la pérennité de l'entreprise qui fait qu'on peut investir, on peut acheter sa maison, on peut s'installer. Et je vais dire que ça rassure aussi un grand nombre de personnes qui travaillent aujourd'hui dans ces entreprises de voir que on continue à investir et donc on pérennise en quelque sorte là aussi l'activité sur un territoire.
Le coût du projet pour la communauté de communes s'élève à 3,3 millions d'euros. La construction du bâtiment devrait être achevée à l'été 2022. Un peu plus proche de nous, ce dimanche sera inauguré le parcours artistique du chemin de l'Aubépin à Laval. On en parle d'ici quelques minutes, le temps d'écouter House on Fire de Plants and Animals. Drugs in your blood to keep you sleeping. De Plants and Animals dans l'agité du local, c'est ce que vous venez d'entendre. Et puis là, il fait beau ce week-end, j'espère en tout cas. Ce sera l'occasion de pouvoir découvrir des œuvres, le tout en se promenant à Laval. En tout cas, c'est l'objectif du parcours artistique créé à l'initiative de la Jeune Chambre économique de Laval. Il sera donc inauguré ce dimanche. Tout au long du chemin de l'Aubépin, une dizaine d'œuvres sont à découvrir. Certaines ont même été produite en collaboration avec des enfants. Interview sur place avec la principale organisatrice, alors que les dernières œuvres sont en train d'être installées au cœur de la nature.
Je suis Alice Judéo, donc membre de la Jeune Chambre économique de Laval.
La Jeune Chambre économique de Laval qui a décidé de s'engager sur ce projet d'aménagement du chemin de l'Aubépin, donc proposer un parcours artistique. Comment déjà est venue cette idée ?
Alors cette idée m'est venue parce que pour ma part j'avais déjà vu ce type de parcours pendant mes vacances à Carcan-Maubuisson dans le sud de la France et j'avais trouvé l'idée assez géniale, notamment parce que ça motive, alors moi j'ai deux enfants et ça les motive carrément à avancer et à se promener parce qu'ils savent qu'à chaque bout de chemin ils vont pouvoir tomber sur une œuvre d'art et aller l'explorer.
Une fois que ça y est, l'idée était bien là et la motivation aussi, comment s'est fait ce choix justement ici du chemin de l'Aubépin ?
Donc on a balayé un peu, enfin plusieurs sites autour de Laval. Donc le bois de l'Huisserie, bois Gamma, etc. Et puis suite à une conversation avec l'animatrice du centre d'initiation à la nature, on est tombé sur ce lieu qui nous a semblé vraiment extraordinaire parce que avec nature préservée, les petits oiseaux, les petits lapins, donc super charmant. Et puis au port des Pommerais. Donc pour nous, ça faisait sens aussi de pouvoir proposer des balades, une sorte de circuit de rando pour les jeunes de la cité. Et puis en plus, là, enfin, c'est pas forcément évident, mais il y a un lien avec la Mayenne. En fait, on peut descendre, ce chemin descend jusqu'à la Mayenne réellement. Donc, la Mayenne qui est quand même le circuit de randonnée préféré des Mayennais, je pense. Et donc, le but aussi initial, c'était de proposer aux gens finalement une boucle, en fait, de leur dire, vous connaissez la Mayenne, vous vous promenez souvent le long de la Mayenne, et faites un petit tour, un petit circuit par l'Aubépin, vous verrez, c'est cool.
Le chemin de l'Aubépin, ça parle peut-être pas à tout le monde, donc si on peut situer un petit peu l'endroit.
Alors c'est pas facile, hein, on se galère à chaque fois. Donc c'est un espace naturel qui fait à peu près 100 hectares, il y a la moitié qui appartient à l'agglo, la moitié à la ville de Laval, et on se situe entre les stades d'athlétisme, donc la salle Jeff Lemoine, pour ceux qui font de l'escalade peut-être qui est plus connue, et l'aquabulle d'un côté, et puis la Mayenne quoi, en gros.
Donc justement ce circuit, comment il va être composé ?
Alors en fait nous ce qu'on propose lors de l'inauguration de dimanche 30 mai, ça va être une découverte vraiment des œuvres. Les œuvres, il y en a une dizaine, quelques-unes qui sont durables et donc que vous pourrez venir voir par vous-même même après le 30 mai, et quelques-unes qui sont là uniquement pour l'exposition de dimanche. Lors de ce circuit, lors de cette inauguration, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait visiter évidemment les œuvres à tous les participants, mais également, on va leur proposer une animation en supplément de la visite, soit un conte qui est animé par le conteur Olivier Hédin, qui s'appelle Les Petits Cailloux, soit une animation nature, du coup, qui est animée par le Centre d'initiation à la nature, qui, voilà, et qui va permettre de découvrir un petit peu, notamment pour les enfants, toutes les petites bêtes cachées de l'Aubépin. Et puis, voilà, on aura aussi des sacs poubelles à disposition de tout le monde pour éventuellement nettoyer la nature si on tombe sur des déchets. C'est pas, le but, c'est pas de faire une journée de nettoyage, mais tant qu'à faire, aussi de sensibiliser les gens à peut-être se promener eux-mêmes avec des sacs quand ils vont se balader dans la nature pour essayer de la dépolluer et de la nettoyer par eux-mêmes.
Ce sera proposé dimanche, c'est ça, c'est vraiment le jour d'inauguration de ce parcours.
Tout à fait. Voilà, tout à fait, c'est l'inauguration. Et puis, effectivement, comme je le disais, pour ceux qui n'auront pas pu avoir des réservations, des places disponibles ou qui seraient chez belle-maman pour la fête des mères, par exemple, ils vont pouvoir effectivement revenir plus tard par eux-mêmes et quand même, il y aura quelques œuvres à rencontrer au détour d'un chemin, donc c'est assez sympathique.
Cette dizaine d'œuvres, justement, elles ont été confectionnées par qui ? Alors, confectionnées ou préparées par qui ?
Donc, on a 5 artistes qui ont bossé sur le projet. Je vais tous les citer à la limite. Donc, Stéphane Dardenne, Stéphane Delaunay, donc on a Fabrice Milleville, on a Joël Mérienne et Steven Chalot, tous avec leurs pattes extrêmement différentes. Donc, on a des œuvres qui seront vraiment variées. Volontairement, on a essayé de pas trop les contraindre dans leur créativité. On avait donné un thème général au départ qui était l'imaginaire de l'enfant. Puisque ces chemins justement sont aussi beaucoup empruntés par les jeunes du centre de loisirs, etc. Et puis surtout parce que les œuvres, notamment 3 d'entre elles, ont été co-créées avec les jeunes du centre de loisirs des Pommerais, de la maison de quartier, de la maison des jeunes. Donc le but c'était que ça leur parle et que voilà, ensemble ils puissent co-créer ces œuvres. Ça a bien fonctionné malgré ce troisième confinement qui nous a un petit peu cassé les pattes, mais on a rebondi, on a reprogrammé. Tout le monde, enfin tous les intervenants ont été vraiment, vraiment motivés pour maintenir ce projet. Donc voilà, on est content que ça puisse aboutir et que ça ait abouti avec la dimension qu'on voulait lui donner, puisque c'est quand même pas gagné.
Comment se sont déroulés ces projets avec les enfants? Puisque j'imagine que ça se fait pas en un claquement de doigts et que les enfants doivent être contents de voir ainsi leurs œuvres exposées.
Oui, tout à fait. Bah, alors du coup, il y a eu plusieurs séances de mise en place entre effectivement les responsables des différents sites, centres de loisirs, maisons de quartier, etc. et nos artistes, donc en fonction des disponibilités des uns et des autres. Chaque artiste a vraiment choisi une organisation différente. Je sais que Fabrice Milleville, qui était avec un public assez jeune de mémoire, qui était sur des primaires, mais début de primaire, ils ont plutôt opté pour un format court, une heure par-ci par-là, etc. Avec Stéphane Delaunay, en revanche, les séances étaient un petit peu plus longues. Donc Fabrice Milleville les a vraiment fait participer. Les totems sont vraiment le fruit de l'œuvre des enfants. Stéphane Delaunay, en revanche, les a plus cadrés. Donc les jeunes ont, on va dire, collaboré pour la confection, notamment du nid géant, etc. Mais voilà, en tout cas, dans tous les cas, les jeunes ont été hyper contents. On en a vraiment des bons retours. Alors, la plupart connaissaient déjà cet espace, mais ça va aussi les amener à revenir sans doute avec leur famille, leurs parents, leurs amis, pour montrer ce à quoi ils ont contribué, quoi.
Vous avez parlé des totems, vous avez parlé d'un nid géant. Est-ce que vous pouvez nous les décrire pour qu'on se représente un petit peu mieux ?
Le nid géant, alors c'est une œuvre qui a vocation à vivre avec le temps, à évoluer, à s'améliorer, voilà. Pour l'instant, elle fait, je crois, à peu près 6 mètres d'envergure sur à peu près 1 mètre de haut. Peut-être que l'année prochaine, elle en fera 2 de haut. Voilà, ça va être mouvant. Donc, c'est quelque chose qui représente aussi le cocon, à la fois le cocon familial, mais aussi le nid. Parce qu'effectivement, ici, on a beaucoup d'oiseaux. Donc, beaucoup d'oiseaux qui font leur nid, qui vont passer énormément de temps et qui vont passer beaucoup d'énergie à construire leur nid. Fabrice Milleville, ces totems, c'est vraiment des totems un peu bric-à-brac. Je ne veux pas qu'il y ait de points négatifs derrière bric-à-brac, mais c'est un peu le but, c'est d'utiliser des matériaux de récupération. Donc on est sur des choses extrêmement esthétiques, très colorées, qui vraiment pour le coup parlent de l'enfance aussi, avec tout ce qu'elle peut avoir de créativité, des plumes, il y a des poupées, il y a des, voilà, des boîtes de conserve. C'est très hétéroclite, c'est hyper esthétique hein, également. Et puis, voilà, Joël Mérienne, lui, avec ses toiles d'araignée géantes, ses attrape-rêves géants, il est toujours dans l'imaginaire, hein, l'enfant qui lui, de ses yeux, perçoit tout comme extrêmement gigantesque. Et ensuite, on a effectivement Steven Chalot avec Ces quatre totems, ces points cardinaux nord, sud, est, ouest, qui aussi parlent aux enfants parce que les enfants sont souvent dans la latéralité, l'apprentissage aussi de leur corps, de leurs repères. Donc voilà, tout ça est assez en cohérence. Il y a, à part le thème général, il n'y a pas forcément, on va dire, un fil rouge esthétique entre les œuvres, mais c'est aussi ça qui fait son charme et c'est ce qu'on voulait.
Tout ça, effectivement, ça va être inauguré ce dimanche. Et si on veut ensuite, évidemment, c'est l'objectif, continuer d'emprunter ce parcours, est-ce qu'il y aura un petit peu des explications justement sur chacune de ces œuvres pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux ?
Alors oui, on aura des panneaux signalétiques. Hein. J'avoue que je ne les ai pas encore vus, donc là, c'est un petit peu tôt pour moi pour en parler. Je sais que certains artistes les font eux-mêmes et vraiment vont marquer le descriptif en détaillé en fait, de leur travail. Pour d'autres, ce sera sans doute plus succinct, mais effectivement, on va les signaliser de façon à ce que chacun puisse les repérer. Cela dit, on ne peut pas non plus les rater. Hein. Normalement, c'est quand même assez évident. Ce projet, il se voulait avoir plusieurs dimensions. Effectivement, une dimension un peu sociale du fait de travail qu'on a mis en place avec les pommerais, les quartiers des pommerais. Une dimension artistique et effectivement une dimension nature. Cette dimension nature, elle a pris notamment tout son sens avec les confinements en cette année 2020 un peu particulière. Et c'est ça qui nous a poussé à vraiment, qui nous a motivé à mener le projet à bout, on va dire.
Vous êtes inspiré de ça, donc d'un parcours dans le sud. Est-ce que vous savez s'il y en a d'autres qui existent un petit peu par ici ou pas du tout ?
Alors en Mayenne, pas du tout. Il en existe d'autres sans doute en France. En général, c'est plutôt d'ailleurs des choses qui sont mises en place par l'Office national des forêts pour la mise en valeur tout simplement de forêts domaniales ou autres. C'est aussi parce qu'il n'y en avait pas en Mayenne qu'on a voulu créer ce parcours. J'espère que ça donnera des idées à d'autres parce qu'on a plein d'artistes motivés, et notamment en Mayenne. Hein, vraiment, avec l'appel à projet qu'on a fait, on a rencontré pas mal d'artistes et on s'est rendu compte que tout le monde était extrêmement intéressé pour participer à ce type d'événement.
Bonjour, Stéphane Dardenne. Donc, je suis artiste plasticien et j'ai une double casquette en étant enseignant au conservatoire de la ville de Laval.
Comment ça s'est passé par rapport à ce projet de parcours artistique ici au chemin de l'Aubépin ? Vous avez répondu à un appel à projet, comment ça s'est fait ?
Exactement, c'était l'appel à projet émanant de la jeune chambre économique, donc qui a fait appel à quelques plasticiens pour habiller finalement ce chemin de l'Aubépin, puisque c'est un site qui est assez extraordinaire, puisqu'il est resté totalement indemne de construction, et c'est vrai que c'est un très chouette lieu de randonnée.
Quelle œuvre, justement, vous avez proposée et va être installée très bientôt ?
Alors, très bientôt, effectivement. Donc là, je suis en pleine installation avec la pose de deux bus béton, deux grands poteaux qui vont accueillir, finalement, une souche. Alors, ce projet s'intitule « Nos racines » et « Nos racines » nous parle, finalement, du lien étroit entre l'homme et la nature. Le but étant de proposer aux randonneurs la présentation de racines d'un arbre, en fait, hein, tout simplement. C'est une souche qui a été offerte, en fait, par la ferme bio du Chêneau. C'est une très, très belle pièce. C'est un chêne, un très beau chêne massif. Et l'idée, c'est de le présenter, tout simplement, pour mettre en évidence ce lien entre homme et nature.
Du coup, vraiment, la pièce maîtresse, c'est cette souche. Ça vous est venu comment ? Vous étiez à la recherche d'une souche ou c'est quand vous avez vu la souche que vous avez dit « là, il faut en faire quelque chose » ?
Mais c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de proposer une pièce de type land art. Et donc, assez rapidement, mon choix s'est axé sur cette idée d'arbre et de souche. Et assez rapidement également, l'idée du titre « Nos racines » m'est venue en tête. Donc finalement, l'articulation s'est un petit peu construite de cette manière-là.
L'œuvre va être installée pour l'inauguration ce dimanche, mais l'objectif, c'est qu'elle reste un petit peu dans le temps. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une œuvre, justement, elle se détériore pas, on va dire, avec les éléments naturels au fil du temps ?
Alors effectivement, cette souche est massive, elle restera dans le temps. Donc d'ailleurs, par rapport à l'installation, on a deux buses assez conséquentes hein, qui vont tenir un poids de cette pièce qui représente à peu près 400 à 500 kilos. Et donc, elle est vraiment destinée à rester dans le temps. C'est une pièce pérenne, alors qui sera patinée par les effets de les aléas climatiques, etc. Mais ça fait partie également du projet, puisque finalement, on est en lien total avec cette idée de nature qui se découvre, qui vit, et finalement la pièce est totalement en bois brut, donc elle va faire sa vie naturellement.
C'est vrai qu'on est tout à fait dans ce que vous disiez, dans l'esprit du Land Art. Est-ce que ça correspond au travail, aux œuvres que vous faites à côté, ou c'est une première pour vous ?
Alors, c'est pas réellement une première. J'avais exposé à Saint-Pierre-sur-Erve, sur l'eau, finalement, une grande corolle réalisée en branchage et d'autres pièces. Mais je suis assez curieux de tout. En fait, c'est ça qui va caractériser mon travail. Ce qui fait également qu'il est peut-être pas réellement totalement défini. Mais peu importe, au sein de mon atelier, le presse-papier qui a ouvert ses portes en début d'année. Je considère cet atelier comme un grand laboratoire de recherche. Donc vraiment tout azimut.
C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui vont se balader, peut-être pas forcément au début pour voir vos œuvres, mais qui vont quand même les voir. Du coup, qu'est-ce que ça procure ?
Un sentiment de fierté avant toute chose, du fait d'aller vraiment jusqu'au bout du projet, de l'idée jusqu'à la réalisation.
Et pour participer à une balade ou à un atelier proposé dimanche, la réservation est obligatoire auprès de l'Office du Tourisme au 02 43 49 45 26. Normalement, il reste quelques places, mais je vous conseille de vous dépêcher. On revient d'ici quelques minutes, encore une fois, après une petite pause musicale assurée par Black Pumas avec Black Moon Rising.
To do is grieve.
Black Moon Rising dans l'agité du local, c'était les Black Pumas, j'imagine qu'on prononce comme ça, que vous venez d'entendre évidemment. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, on écoute notre chronique service civique. Et cette semaine, on reste en Mayenne puisque vous allez entendre le témoignage de Melike Olgun. Elle était avocate en Turquie et pourtant elle a fait le choix d'un service civique en France et à Laval plus précisément, auprès de la Ligue de l'enseignement de la Mayenne, dans une mission de lutte contre les discriminations. On l'écoute.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Un parcours étonnant aujourd'hui, celui d'une avocate turque qui a choisi de s'engager en service civique en France. Melike Olgun a 26 ans. Depuis novembre dernier, elle est volontaire à la Ligue de l'enseignement de la Mayenne pour une mission de lutte contre les discriminations. Elle a déjà vécu un an en France, ce qui lui a permis de s'engager en service civique. Et c'est d'abord sa mission qui l'a attirée à Laval.
Pour la mission, j'ai intégré sur le collectif Une Sonne de Différence. J'ai développé une plateforme numérique, le site internet UND. J'ai participé aussi aux activités contre les discriminations pendant tout le mars. Il y a une semaine d'éducation contre les discriminations, donc on a organisé quelques activités. Je vais à l'école pour parler de discrimination, pour sensibiliser les élèves, pour sensibiliser les situations de discrimination, comment on peut trouver des solutions ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut développer, etc. Depuis novembre, je suis à Laval, mais l'année dernière, j'étais dans le sud, à côté de Toulouse. J'étais volontaire de Erasmus European Corp pendant une année. C'était un projet d'éducation populaire, c'est être animatrice dans l'été, dans les campings pour les jeunes, les adolescents. Et normalement, en Turquie, je suis avocate. Mais j'ai quitté mon travail pour une nouvelle expérience, pour autre culture, pour apprendre le français. Grâce au service civique, je suis devenue lauréate de l'Institut de l'engagement. L'Institut de l'engagement, c'est si vous êtes service civique ou volontaire de Erasmus, vous pouvez être lauréate. Après passer dossier, après entretien, etc. Il accompagne pendant un mois. Pour votre carrière après service civique, par exemple, pour trouver un travail ou intégrer une formation ou créer une association ou créer votre travail. Je suis devenue lauréate et maintenant, je vais postuler à l'université pour, je pense, Sciences Po ou quelques autres universités avec l'Institut de l'engagement pour l'année prochaine. Je vais travailler dans le domaine de diplomatie, donc je vais être attachée au droit international. Je suis étrangère et je suis toute seule ici. Je ne connais pas bien toutes les démarches, tous les systèmes d'éducation, de santé, etc. Donc, je connais qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne et il est toujours là-bas si j'ai problème. Pour trouver, par exemple, logement, ou bourse, ou intégrer formation, ou autre chose, elle est prête pour m'aider. Il s'arrête septembre et après septembre, j'espère que je vais continuer mon formation master. Mais je vais continuer à être volontaire de collectif ici parce que je vais être en contact avec tous les collectifs. Comme j'ai déjà dit, ils sont très gentils, généreuses et quelqu'un m'a aidé pour apprendre le français. Quelques associations, c'était très chouette. Ils sont très gentils pour moi et je vais rester en contact avec toutes les associations. J'ai appris le système de l'association parce que jusqu'à ici, je travaille toujours dans l'entreprise ou dans l'État, etc. Donc, je ne savais pas comment fonctionne l'association. Ici, il m'a permis d'observer le système d'association. comment il peut être important pour la société. Et autre chose, service civique, c'est comme c'est bénévole. C'est-à-dire que je fais quelque chose pour quelqu'un, mais bénévolement, et c'est sans très différent, c'est pas comme salarié.
Un reportage réalisé avec Claire Garouste en service civique à l'autre radio.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités. Une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur le parcours de Méliké, une interview plus longue a été diffusée dans cette émission le mercredi 12 mai. Vous pouvez la retrouver en podcast dans l'agité du local sur l'autreradio.fr. Nous sommes vendredi, quatrième et dernier épisode de notre série autour de l'édition 2021 du Festival des Trois Éléphants. On le sait, cette année, malheureusement, il ne pourra pas y avoir de concert, mais pour autant, l'événement n'est pas du tout annulé. L'association organisatrice Poc Poc s'est adaptée aux conditions sanitaires en misant, vous l'avez sans doute remarqué dans le centre-ville, beaucoup sur la décoration, mais aussi sur les arts de la rue qui continuent donc d'être programmés tout ce week-end, ce samedi et dimanche dans les cours de certaines écoles ou lycées. Petit morceau choisi de la programmation justement avec Alicia Lepelletier de la Direction des Affaires Culturelles à la Ville de Laval.
En nouveauté, on a Léandre par exemple qui est un clown espagnol qui a un tout nouveau spectacle qui a été fait il n'y a pas très longtemps, et donc du coup, voilà, ils nous ont demandé s'il y avait de la place, parce qu'ils avaient très envie de revenir sur Laval. On leur a dit que, en effet, il y a Léandre qui sera là, et aussi, par exemple, la compagnie DPK, avec Amédée, qui est un comédien qui a fait beaucoup de spectacles, qui est très connu dans le milieu, avec Voyage Capelle, et qui sera également de la partie cette année. Adoc qui nous fait le plaisir d'être là, qui devait être là l'année dernière et donc qui ont gentiment accepté de revenir cette année avec leur création de l'année dernière, qu'ils n'ont pas pu jouer énormément. Je crois qu'ils n'ont joué une seule fois devant un public en sortie de résidence. Donc du coup, on a un peu l'exclusivité de la première d'Adoc avec Qui Vive. Et ouais, on est super contents. Donc on a également les batteurs de pavés qui étaient déjà venus aux Trois Éléphants en 2018, je ne me trompe pas, qui avaient eu un super succès avec le public. Et donc cette année, ils reviennent avec également une création qui s'appelle Richard III ou Le Pouvoir Fou. C'est une compagnie suisse avec qui on a déjà travaillé. Pour eux, la venue à Laval va être assez sport parce que pour pouvoir entrer en France, ils vont devoir faire un test Covid. Pour rentrer chez eux, ils vont devoir faire un test. Ils vont être en mode très regardant et très pointilleux sur tout ce qui est hygiène et Covid, gestes barrières. Et pour eux, c'est hyper important de venir jouer, mais de jouer dans de bonnes conditions parce que voilà, leur venue n'est pas forcément facile à organiser. On a également une autre création, beaucoup de créations cette année. On a beaucoup de chance. Création du Grand Colossal Théâtre avec la Chienli pour un fascisme ludique et sans complexe. Une assez grande compagnie parisienne. C'est une coproduction du Festival des Trois Éléphants. On les avait reçus l'année dernière en résidence pour qu'ils puissent travailler sur leur spectacle. Donc là, ils ont dû retravailler leur spectacle parce qu'à la base, ça devait être une promenade avec les spectateurs. À cause du Covid, on va pas pouvoir faire ça comme ça. Donc ils ont retravaillé un tout nouveau spectacle aussi pour pouvoir être Covid compatible. Et donc c'est chouette, ils vont être hyper réactifs pour pouvoir jouer cette année dans les meilleures conditions. On a Leo, qui est un Néerlandais qui vient des Pays-Bas. Lui, c'est pareil, il va faire test PCR, parce que voilà, il va venir des Pays-Bas pour venir chez nous, pour repartir en Suisse juste après. Léo, qui fait plutôt du théâtre de marionnettes, c'est un spectacle qui est accessible à toute la famille. C'est pareil, il est déjà venu à Laval il y a quelques années, et on avait décidé de le faire revenir, parce qu'on trouve son spectacle assez chouette.
Malheureusement, plus la peine d'essayer de réserver vos places puisque tout est déjà complet pour ce week-end. Mais malgré tout, l'exposition rétrospective est toujours visible à la Périne au moins jusqu'à dimanche soir. Les épisodes précédents de ce feuilleton sont à réécouter sur notre site l'autreradio.fr. C'est désormais l'heure de la rubrique initiative avec une proposition. Et si vous deveniez bénévole pour le Salon Laval Virtual ? Le Salon Lavallois dédié à la réalité virtuelle recherche justement une cinquantaine de volontaires pour son édition 2021. Elle se tiendra du 3 au 11 juillet et tous les profils sont les bienvenus, précisent les organisateurs. Parmi les missions, il vous faudra accueillir et informer le grand public et les professionnels. Vous pourrez choisir en fonction de vos préférences et des parcours qui existent sur le salon, que ce soit pour les enfants, les amateurs d'art ou les jeux vidéo. Inscription déjà possible sur le site du Laval Virtual. Et dès demain commence le printemps bio en Mayenne. Ce n'est que le début de l'événement qui se poursuit jusqu'à fin août. À Bazouger, la ferme arc-en-ciel ouvre ses portes ce samedi de 10h à 19h. Au programme toute la journée, visite libre de la ferme, traite et soins des animaux, présentation du fournil et de la fromagerie. À 16h, vous pourrez profiter du concert de Sophie et Vincent et à 17h du spectacle de Bretelles et Garance intitulé La part des choses. C'est la même ferme dont on a été faire le reportage qui a été diffusé mercredi, l'école Les Pieds dans l'Herbe. Et puis donc le lendemain, vous pourrez découvrir la ferme de la Rousselière à Chemazé, qui élève des vaches allaitantes et des volailles. Le programme complet de ce printemps bio est à retrouver sur civambio53.fr. Et puis cette émission ne serait pas complète sans notre revue de presse du Haut Anjou, puisque nous sommes vendredi et elle a une aujourd'hui une question. Qui sont les grands gagnants du loto ? On retrouve à l'intérieur de l'hebdomadaire le top 5 des gros pactoles remportés sur le territoire, côté 49 ou côté 53, avec notamment des chiffres qui font un peu tourner la tête. 14 millions d'euros ont été remportés en 2016 à Andouillé, 7 millions d'euros en 2019 à Louvernay, et puis encore d'autres sommes, mais peut-être un petit peu moins impressionnantes, tout est relatif. À noter que le loto existe depuis 45 ans en France. Un peu plus loin dans le journal, on zoome sur le nouveau bac professionnel proposé au lycée Pierre et Marie Curie à Château-Gontier. C'est un bac pro logistique et ce sera la seule formation proposée dans un établissement public dans le département. 17 places ouvrent donc à la rentrée en septembre 2021 et les entreprises locales se sont déjà montrées intéressées. On peut citer notamment VNB ou Lactalis puisque c'est un secteur où il y a des difficultés de recrutement. Le lycée proposait déjà un CAP opérateur logistique, ça sera donc un petit peu dans la continuité de ça avec une formation avec beaucoup de stages et d'apprentissages qui seront proposés. Si vous voulez plus d'infos, évidemment, n'hésitez pas à contacter l'établissement. Et puis une autre bonne nouvelle sur un autre aspect, un nouvel atelier pour Ofica à Saint-Denis d'Anjou. L'entreprise était spécialisée dans la confection de sièges pour les camping-cars, mais là ce sera un deuxième atelier dédié à la maroquinerie de luxe. La communauté de communes du pays de Château-Gontier aide donc le projet à hauteur de 120 000 euros, ce qui permettra notamment la création d'un parking, la réhabilitation de l'atelier. Et puis aussi, l'objectif final, c'est donc bien de passer de 50 CDI actuellement à 110 au total dans l'entreprise. À noter aussi que des formations sont mises en place avec Pôle emploi. Tout cela, c'est donc à lire dans le Haut-Anjou de cette semaine. C'est donc la fin de notre émission L'Agité du local. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À suivre à l'antenne à 20h, il y aura Passe-moi le thème consacré aux reprises de Jacques Brel. Nous, on se retrouve lundi, même horaire que d'habitude, c'est-à-dire à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'Agité du local.